Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Adeline. Adeline et son mari pratiquent l'instruction en famille avec leurs 5 enfants depuis 2011. Comme 30% des parents pratiquant l'instruction en famille, l'IEF, Adeline est enseignante. Elle a été directrice seule dans une petite école pendant 4 ans. Elle y a connu beaucoup de liberté, mais elle a vite rencontré des limites sur les moyens alloués et sur l'obligation de suivre un programme. Puis elle change de poste, elle a alors 2 enfants et elle attend son 3e. Elle constate malheureusement une grande violence institutionnelle des adultes à l'égard des enfants. Profitant de son congé maternité, elle fait le choix de ne pas revenir à son poste, et à ce moment-là, découvre le sujet de l'instruction en famille, qu'elle ne connaissait pas, car pour la cité, c'est caché par l'institution. Dans cet épisode, nous allons parler de différents sujets. Moi, j'ai connu Adeline dans un groupe de travail pour défendre la liberté d'enseignement aujourd'hui menacée. Et bien entendu, il y aura des positions politiques fortes évoquées dans cet épisode sur l'instruction en famille et sur le système global. Nous allons aussi parler de l'école. Pour être très clair, nous parlerons en termes d'institution dans la vision critique de ce sujet. Concernant les professeurs, nous allons commencer cet épisode par le point de vue d'Adeline et notre échange sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne écoute.
En tant que professeur, on a besoin d'une vraie reconnaissance et qui soit basée sur l'individu plutôt que sur un groupe. Je pense qu'on aimerait être reconnu chacun pour ce que l'on fait et non pas porter tous les problèmes du système sur nos petites épaules. Et quand il y a l'un de nos membres qui dévie, on aimerait que ce soit lui qui soit pointé du doigt et non pas tous les enseignants. Voilà. Et je pense que c'est important aussi de savoir le reconnaître, qu'il y a des déviances, qu'il y a des professionnels qui ne sont peut-être pas faits pour ce métier. Malheureusement, on refuse de faire du cas par cas ou de cibler.
Et il y a aussi, des professionnels qui font un travail remarquable dans des conditions extrêmement difficiles et qu'il faut saluer aussi. Mais en effet, voilà.
Et qui ne sont pas justement reconnus à leur juste mesure parce qu'on ne sait pas les reconnaître, on ne se soucie pas de valoriser ce qui est valorisable.
Tout à fait.
Et pour revenir sur le choix commun des parents, c'est pareil, c'est vraiment important de voir que peu importe si c'est... On entend souvent dire que ce sont les mères qui restent pour faire l'instruction en famille et que c'est vu comme une société assez archaïque, patriarcale, avec la mère au foyer. Et je pense que ça, c'est vraiment à déconstruire parce que, comme tu le dis, c'est un choix commun aux deux parents. D'ailleurs, peu importe les deux parents. Mon mari, autant que moi, on a chacun notre rôle à jouer et chacun se repose sur l'autre à sa façon. Et donc, il n'y a pas que le salaire dans un couple. Il y a aussi tout le temps que l'on passe à s'occuper de telle ou telle chose. Et je pense que c'est justement là qu'il faut que les deux parties soient très, très fortes et conscientes de leurs responsabilités.
Non, mais je te rejoins à 1000%. Moi, tu vas chez moi, par exemple, dans le projet. Ma compagne a le plus gros revenu, elle a la situation la plus stable et la meilleure, entre guillemets, socialement parlant. Et pour autant, nous, tu vois, on a fait un choix où elle veut quand même s'impliquer. Donc, on essaie d'équilibrer nos activités chacun pour réussir à être dans le suivi de l'instruction aussi, à passer du temps avec. Voilà, donc il y a tellement de possibilités. Enfin, t'es dans l'IEF depuis bien plus longtemps que moi. On rencontre des profils tellement différents et que c'est la vie, quoi. C'est pas...
Tu viens de dire un mot très important, c'est le temps. Tout à l'heure, j'ai pointé du doigt que c'était pas l'argent le plus important. Maintenant, c'est le temps. On en a entendu beaucoup parler dans notre réseau. La plupart des parents, le plus dur à s'organiser, finalement, c'est pas forcément financièrement. C'est en termes de temps à dégager pour son enfant, pour sa famille. Avoir envie de le donner, c'est une chose, mais de pouvoir le donner. Et nous, on est en lien avec tellement de familles, comme tu le dis, depuis 10 ans, qu'on voit bien qu'il y a des familles qui travaillent tous les deux à 100%, les deux conjoints, ou alors des familles qu'on choisit, comme nous, d'avoir un conjoint qui est disponible intégralement pour les enfants, selon le nombre aussi, hein, ça peut jouer. Parce que c'est vrai que la société est très paradoxale. On va te dire parfois, Ah oh là là, 5 enfants, je pourrais pas à ta place, c'est beaucoup de travail. Et puis à côté de ça, tu es considéré comme quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que le travail n'est pas perçu de la même façon pour les uns ou pour les autres. C'est vrai que si j'avais gardé 5 enfants d'autres parents, j'aurais été considérée comme travailleuse. Si j'avais nettoyé la maison de quelqu'un d'autre, j'aurais été considérée comme travailleuse. Si j'avais cuisiné dans une cantine, j'aurais été considérée comme travailleuse méritant un salaire. Aujourd'hui, voilà, en France, le féminisme qui est développé ne va pas dans ce sens de reconnaître le temps effectivement donné aux autres ou de travail effectif, mais plutôt cette dimension d'être hors la maison. Alors, autant où on arrive vers le télétravail en masse, je pense qu'il est temps peut-être qu'on reconsidère ce que c'est que le travail. Peut-être.
Alors,
on dévie la question.
Non, on peut dévier. Hein. Le point de féminisme que tu pointes, c'est ton avis. Je te laisse seul juge de ça. Moi, je te rejoins en tout cas sur le fait que le travail à la maison n'est en effet pas reconnu. Et qu'on soit un homme ou une femme, finalement, le travail, il est conçu comme étant à l'extérieur du foyer, que quand tu t'occupes des enfants des autres, en effet, c'est payé, alors que quand tu t'occupes des tiens, apparemment, tu fais rien. Il ne se passe rien. Et donc, c'est vrai que c'est une piste à explorer. Et c'est une piste qui est très intéressante à explorer, je trouve, parce que là, je vais entrer dans ma position politique personnelle. Il y a des gens qui parlent de l'IEF comme étant un grand privilège, mais qui oublient un privilège financier, mais qui oublient une chose, c'est que c'est une liberté, et si elle n'est pas accessible à tous, la position politique, en tout cas qui est la mienne, c'est de défendre un système qui la rendra accessible à tous, en tout cas que le choix soit accessible à tous et toutes, parce qu'on n'est pas obligé de choisir l'IEF, bien sûr. Et dans ce cas, petite parenthèse projet politique, peut-être que le revenu universel pourrait être une piste. Voilà, il y a des choses à explorer comme ça. Mais en tout cas, moi, je trouve très intéressant le fait de développer une pensée comme ça en partant d'une situation et d'une liberté fondamentale pour penser un peu au système quoi, tel qu'il est conçu.
Bah nous, ce qu'on peut observer, comme je te disais, c'est que les familles, comme tu dis, le choix n'est pas évident à faire, mais à plein de niveaux. Et je pense que quand c'est vraiment une volonté très forte de la famille... Bon, je m'expose peut-être en disant ça, mais on se rend vite compte qu'il y a très peu d'obstacles. C'est que ils sont capables, c'est pour vraiment rendre hommage en quelque sorte à ces familles autour de moi. Je trouve qu'elles déploient une énergie folle, une volonté tellement forte de pouvoir être auprès de leurs enfants. J'ai quand même des gens qui travaillent à 100% tous les deux, de nuit, et qui ont 6 enfants. Donc c'est une famille que, pour moi, c'est... Et ils ont déscolarisé leurs enfants suite à des soucis avec l'école très fort. Donc, c'était vraiment pas leur choix de départ. Ils n'étaient pas du tout anti-école. C'est juste que ça s'est tellement mal passé qu'ils se sont sentis responsables et obligés de devoir trouver une solution. Et ils s'y tiennent depuis. Et ils gardent ce rythme en travaillant tous les deux courageusement. Enfin, moi, c'est vraiment la famille que j'ai souvent en tête quand je me dis non, ne baisse pas les bras, sois forte, continue. C'est un projet de vie, c'est pas toujours simple, mais on sait pourquoi on le fait. Et on fait passer nos enfants avant tout.
Moi là-dessus, si tu veux, ma position personnelle, ce que je vais peut-être tempérer un petit peu, c'est que oui, c'est un projet de vie. Oui, clairement, en tout cas ma fille actuelle est clairement prioritaire. Pour autant, je souhaite que dans mon projet de vie, j'ai aussi ma place, que mon couple ait aussi sa place, et qu'on ne s'oublie pas justement. Les enfants avant tout, mais pas dans une vision sacrificielle. C'est mon point de vue à moi. Hein. Donc voilà.
Non, mais c'est bien que tu le dises, parce que c'est souvent l'argument qui nous est opposé en disant « mais vous vous sacrifiez ». Mais parfois, moi, ce que je ressens le plus, c'est qu'on essaie de me forcer à croire que je me sacrifie, à me sentir sacrifiée, et que les autres essaient de m'imposer leur vision, comme, vu que c'est pas la leur, me disent, j'ai encore eu l'inspecteur hein, là, dernièrement, hein, qui m'a dit, il faut avoir du temps pour vous, madame. Mais si le temps que j'ai pour moi, je le passe agréablement avec mes enfants. S'il y a des gens qui ne voient pas de problème à jouer à des jeux de société toute la journée avec leurs enfants, pour qui ça se passe bien, moi j'ai des dialogues très intéressants avec mes enfants. J'ai envie de dire, la première année, quand ils étaient tout petits, il faut avoir du contact avec d'autres adultes, il faut maintenir du lien social, il faut absolument... moi, en tout cas, ça a été mon besoin. J'ai eu besoin d'exister en tant qu'adulte, c'est parce qu'être entouré de 4 petits-enfants de moins de 4 ans, c'est voilà, toute la journée, on a un peu besoin d'avoir du lien avec son mari, certes, mais aussi avec tous nos amis, avec les autres adultes qu'on pourrait croiser. Et ça, je l'ai eu grâce... aux activités extrascolaires des enfants, aux parents en IEF aussi, qu'on a pu croiser au travers du réseau. Et c'est là que j'ai commencé à voir que non, en fait, j'avais une ouverture sur le monde tellement grande que c'était à moi seule de créer ces occasions et de saisir les opportunités pour, comme tu dis, en tant que, selon ma personnalité propre, avoir ces rapports humains auxquels j'aspirais et dont j'avais vraiment besoin. Mais ça dépend vraiment des gens. Et c'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est qu'on veuille toujours imposer un modèle, et tu l'as très bien dit pour l'IEF, il n'y a pas de modèle à imposer à personne. Je pense qu'on ne peut pas imposer le choix de l'école ou de l'IEF ou rien du tout, comme on n'est pas obligé de devoir passer 24 heures sur 24 avec ses enfants quand on n'en a pas envie. Mais je suis un peu triste par contre qu'on ne comprenne pas mon choix et qu'on le juge souvent en me disant c'est pas normal en fait.
C'est un peu, si tu veux, c'est un peu le sujet dans notre société, dans nos sociétés. Bon, on dévie un peu, mais le sujet est intéressant. c'est un peu le sujet quand même dans nos sociétés. Moi, si tu veux, ce que j'ai fait le parallèle il n'y a pas longtemps avec un élu, en lui expliquant que le sujet, à la rigueur, c'était même pas de savoir si on était pour ou contre l'école ou pour ou contre l'IEF. L'important, c'est de savoir est-ce qu'on est pour ou contre le choix. Et le parallèle, c'était fait avec l'interruption volontaire de grossesse, avec l'IVG. Moi, si tu veux, j'ai jamais parlé de ma position personnelle sur l'IVG et jamais je la donnerai. Par contre, je défendrai toujours, et pour moi, c'est ça le combat, je défendrai toujours le choix des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Et si tu veux, avec l'instruction, c'est pareil. La question, c'est pas de savoir est-ce que je suis pour ou contre l'instruction en famille ou l'école, est-ce que je suis pour ou contre ces familles qui font l'IEF, est-ce que je les juge ou est-ce que je les juge pas ? Parce que oui, à un moment, on juge les gens avec ce qu'on a, faut pas se mentir. Ouais, on est tous humains et humaines. Oui, on juge. La question, c'est la liberté fondamentale, elle réside dans le choix. Voilà.
À partir du moment où un choix ne pose pas de problème... Enfin, c'est vrai que, encore, je comprends que nos gouvernements, nos parlementaires aient besoin et l'obligation de s'interroger sur les enjeux, les répercussions, voilà, si tu veux. L'enjeu qui pour eux, bah, bien sûr, je comprends, réside dans leurs obligations en termes de garantie de la sécurité de la société, etc., enfin, de son intégrité. Mais c'est vrai qu'on juge trop facilement des choix qui, pour autant, ne représentent aucun danger, en fait. J'aime pas trop dire ce mot, mais qui sont à la base part d'une bonne volonté, d'un investissement. Et s'ils ne sont pas compris, du coup, on rentre dans un jugement qui va parler de justement danger ou qui va faire preuve de suspicion sur un choix. Et là, en instruction en famille, on est beaucoup sur ça, sur les préjugés qui font que, vu que c'est un choix que peu de gens peut-être envisagent, et puis c'est vrai qu'on est dans une société où s'occuper des enfants, je trouve, est moins courant, en fait, où on aime bien se faire aider pour cette tâche, on aime bien... c'est vrai, et c'est très bien, mais... Je vais revenir, mais c'est vrai que la condition de la femme, moi, je me rends compte que ma grand-mère, finalement, avait plus le choix que moi sur certaines choses, en tout cas vis-à-vis de ses enfants. Et ça, je trouve ça dramatique. C'est-à-dire que oui, elle avait des droits en moins par rapport à moi aujourd'hui, mais par contre, vis-à-vis de son choix d'être mère, de pouvoir, par exemple, mettre au monde son enfant où elle le souhaite, dans les conditions qu'elle souhaite, avec la personne qu'elle souhaite, ses choix qui reposaient uniquement sur son corps, sur sa capacité à être mère, justement, comment elle souhaitait allaiter, ne pas allaiter, elle avait le choix. Elle avait le choix de les mettre à l'école ou non. Elle avait le choix de les scolariser. À l'époque, c'était 7 ans en plus, hein, quand on y pense. On avait le droit, moi je dirais même, d'être maman. Aujourd'hui, c'est très mal perçu ou alors ce n'est pas reconnu en fait comme droit. On nous donne le droit de mettre en crèche. On demande des places en crèche. On nous donne le droit de mettre à l'école. On nous donne même le droit, parfois, d'intégrer l'école dès 2 ans. On a des droits qui, pour moi, s'apparentent à des limitations si ça devient des obligations. Moi, j'aimerais avoir encore des droits et des devoirs, mais surtout avoir le droit d'être maman, tout simplement. Et pour moi, l'instruction en famille, ça dépasse juste le sujet de l'instruction ou de l'obligation scolaire ou de l'obligation d'instruction. C'est juste un parent a envie d'être auprès de ses enfants et de les élever. Ou en tout cas, de pouvoir faire ses choix dans ce qui me semble vraiment inhérent à l'être humain et à tout mammifère, en fait.
Alors, c'est difficile. Il y a une forte conviction derrière que j'entends et je peux que te rejoindre sur le fait qu'en effet, la place de l'enfance dans la société globalement est à repenser, à retravailler, mais il faudrait qu'on refasse tout un podcast sur ce sujet.
Oui, c'est un peu... c'est vrai, il y a un gros souci de parentalité et d'enfance. C'est vrai qu'on a gagné dans les droits de l'enfant, ça on peut pas le nier, et sur certains niveaux aussi beaucoup sur les droits de la femme. Mais par contre, on en perd d'autres. Moi, j'aimerais avoir plus et sans perdre rien du tout.
Ouais, mais je peux que te rejoindre là aussi sur la démarche.
Voilà.
Donc, pour le coup, juste pour revenir un petit peu à l'instruction en famille en tant que telle, aujourd'hui, tes enfants ont quel âge ?
Alors, nos enfants ont 12 ans, 11 ans, 9 ans, 8 ans et puis 5 ans.
Voilà. D'accord. Et comment ça se passe le quotidien au niveau de l'organisation ? Comment se passe l'instruction ?
Alors, comme je l'avais dit récemment, nous, il n'y a pas vraiment de journée type de moment d'apprentissage ciblé sur la journée. Ça va être un apprentissage qui va plutôt être dilué sur un temps très long, qui va depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. On partage, on échange. J'aime placer l'enfant vraiment au cœur de sa vie et au cœur de ses apprentissages pour réduire l'apprentissage, le sujet d'aujourd'hui. Mais j'ai dû déconstruire beaucoup de paramètres que j'avais eus au cours de ma formation et au cours de mon vécu, tout simplement. C'est mon fils qui m'a aidée, l'aîné de la fratrie, parce que j'ai très vite compris que je ne pourrais pas lui imposer toute la programmation scolaire telle que je l'avais vécue, telle que jusqu'ici je l'enseignais. J'ai souhaité me défaire, en tout cas me libérer de cette construction qui finalement m'est apparue comme arbitraire, enfin qu'on pouvait suivre ou non, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui c'est encore dans la loi qu'on a le droit de ne pas les suivre. Et donc ça m'a fait me pencher sur cette question là de programmation, est-ce qu'il fallait programmer tous les apprentissages pour nos enfants, et donc de là a découlé notre mode de vie actuel. Enfin, c'est vraiment, j'ai choisi d'écouter, d'observer, d'accompagner plutôt que d'imposer et de moi seule être à l'origine des apprentissages que les enfants allaient mener. Donc, et quand j'ai commencé à faire ça, c'était les journées les plus épanouissantes que nous vivions tous. C'était les moments où vraiment je me rendais compte que l'enfant était capable de... enfin, allait bien plus loin que ce que j'aurais pu prévoir. Donc au final, en ne le bridant pas, j'avais vraiment libéré sa capacité et son potentiel. Donc ça a été une vraie révélation de me rendre compte de tout ça. Donc nous, les journées, eh bien, les enfants se lèvent le matin, vivent ensemble. Enfin, c'est vraiment le vivre ensemble qui est au cœur de tout ça, d'ailleurs, qui est au cœur de notre, je trouve, de notre vie. Donc ça va être les tâches du quotidien, ça va être le petit déjeuner en commun, ça va être on fait les choses ensemble. Et puis, ça va être un enfant qui va prendre un livre ou qui va prendre une activité en cours, qui va commencer quelque chose, qui va soit... emmener tous les autres dans cette dimension-là, ou bien moi, je vais le rejoindre et on va commencer à traiter d'un sujet, mais on n'a aucune limite de temps ni de durée. Donc, ça va, on va pouvoir aller aussi loin qu'on veut sur n'importe quel sujet. En ce moment, on a eu des périodes où la lecture tournait autour de la mythologie grecque. Par exemple, tous les soirs, on se lisait une histoire d'un livre qui traitait de ça. Là, en ce moment, avec mes grands, on est en train de regarder les Bourvilles et les Deux Funès. Voilà, on se fait notre culture commune aussi. Ça nous permet aussi, au travers d'un film, d'aborder des sujets comme la Seconde Guerre mondiale, comme le Paris de l'époque. Enfin, on va travailler beaucoup en fonction de... Enfin, travailler. Alors, mes enfants n'ont jamais eu le sentiment de travailler. C'est un truc important, d'ailleurs. Je dis tout... Il y a une phrase célèbre, Confucius, qui disait que si on choisissait bien son travail, on n'avait jamais l'impression de travailler aucun jour de sa vie. Mais moi, j'irais même au-delà. C'est que mes enfants, pendant très longtemps, jusqu'au premier contrôle de l'inspection académique, ne faisait aucune différence entre vivre, apprendre, travailler. Pour eux, c'était juste découvrir le monde, comme un petit enfant s'émerveille lorsqu'il va dans un jardin ou lorsqu'il rencontre un animal qu'il n'a jamais vu. Eh bien, pour nous, c'est ça, l'apprentissage. Et dit comme ça, on pourrait croire qu'on est dans la dimension unschooling. En fait, non, pas vraiment non plus. On n'est pas réfractaire à aucun... Si l'enfant a envie de prendre une feuille, des crayons, d'écrire, même s'il croise un atelier d'écriture, ou en fait, ça va être au gré de ses découvertes. Je me formalise pas sur l'idée, est-ce que c'est formel, non formel, est-ce que, par contre, c'est beaucoup l'enfant qui amène les choses, Et si moi, j'ai envie d'en amener, bah, je vais le faire plus par l'exemple. C'est-à-dire que je suis un modèle, je suis là, j'existe. Et comme tu disais, du temps pour soi, bah oui, je vais faire ce que moi, j'ai envie de faire aussi. Et du coup, en faisant parfois ce que j'ai envie de faire, eh bien, ils vont s'interroger. Et vu que chaque parent a ses passions, a ses... Bon, moi, c'est la littérature. Et c'est vrai qu'au travers de la littérature, bah, on peut faire beaucoup de ponts, beaucoup de transversalité. Donc, mes enfants ont pu découvrir beaucoup de choses à travers les livres. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement chez nous, la lecture. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de lever le pied sur mon rôle de professeur et de ne pas être professeur pour eux. C'est que la lecture, elle est venue aussi naturellement que d'apprendre à marcher pour tous mes enfants quasiment. Et mes enfants n'ont aucune particularité. Ils sont juste pas freinés ni pressés. J'impose rien. Donc, on lit tous les jours ou on va lire des histoires et ils vont s'intéresser naturellement à ce code, à ce moyen de communication entre les êtres humains. Et puis, mon fils, très jeune d'ailleurs, il devait avoir 7 ans, je crois, m'a dit un soir, mais en fait, quand on lit, c'est comme si on partait en voyage. Et bon, bah, c'était... Pour quelqu'un qui adore les livres, c'est...
C'est un bon résumé de la lecture, en tout cas.
Une belle phrase. Et pour nous, la lecture, c'est la liberté. Donc, c'est justement ça qui me blesse, d'ailleurs, en ce moment, avec le discours officiel, c'est de dire que l'école, l'instruction en famille pourrait être un moyen d'embrigader. Et je dirais qu'à partir du moment où l'enfant lit, c'est difficile, voire, je pense, impossible, de contrôler sa pensée. Et c'est d'ailleurs toute la liberté, je trouve, qui est offerte par la lecture.
On pourrait te répondre que ça dépend aussi de ce qu'on lui fait lire, tu vois.
Alors après, alors pour un exemple, tiens, pour citer ça, j'étais en train, quand mon fils a commencé à lire, mais je ne le savais pas, c'était un peu l'exemple de Pagnol hein, dans son livre, j'étais en train de taper un mail à une copine. Et là, mon fils me dit, mais pourquoi tu dis qu'on ne fera pas ça aujourd'hui ? À partir de ce jour, j'ai su qu'un enfant qui savait lire pouvait lire tout ce qu'il avait envie, peu importe où, et que quand même réussir à contrôler ce qu'il lit, voilà, un mail anodin, une publicité à la télé, enfin non, ils sont capables à partir de ce moment-là de lire tout ce qui les entoure. Enfin, la lecture est partout, là on parle de livres, mais pas seulement de livres, ça, quand tu sors dehors, ils vont croiser des affiches, ils vont croiser... Et puis un enfant l'empêcher de lire, je crois que c'est compliqué quand il aime ça.
Il y a deux points qui m'interpellent particulièrement. C'est le premier, c'est que bah, tu trouves aussi ton équilibre personnel dans cette situation et que ça te regarde et que ça te concerne et que c'est ton choix. Mmh. Et ça, c'est, je trouve ça top. Et l'autre point, c'est que ouais. En fait, quand tu parles, moi, j'entends vraiment différents niveaux d'analyse. J'entends la femme, la mère et la pédagogue. Parce que tu as quand même une formation à la base d'enseignante et donc de pédagogue. Entendu au sens commun. Et donc, je trouve ça super intéressant de voir que, en fait, en laissant la liberté à tes enfants, j'ai l'impression que tu te laisses aussi beaucoup de liberté à toi-même.
La liberté de pédagogique, en quelque sorte, complètement. J'ai découvert réellement la liberté pédagogique lorsqu'on a fait le choix de l'instruction en famille. Mais je vais rebondir quand même sur la formation. Quand on dit qu'on est professeur des écoles, forcément, on pointe du doigt la formation en disant que c'est l'une des composantes essentielles, ou en tout cas qui se ressent dans ma pratique. Et moi, souvent, ce que je réponds, et ça a été soufflé par mon mari, mais je crois qu'il a eu raison de me le souffler, parce qu'il m'a redonné cette confiance aussi. Je suis devenue professeur des écoles, mais avant d'être professeur des écoles, j'étais quelqu'un. j'ai été une enfant, donc ça a été un retour complet sur mon enfance. J'ai été une accompagnatrice, en quelque sorte, aussi d'un petit frère. J'ai découvert cet aspect, comme tu dis, pédagogue, peut-être bien avant, et réellement bien avant de devenir professeur. Et en fait, c'est justement ces capacités-là, peut-être, que j'avais développées et qui m'importaient, qui m'ont fait me diriger vers ce métier. Et du coup, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie d'appuyer très fort sur cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, on pense que c'est le diplôme qui nous rend pédagogue ou qui nous rend professeur. Et je pense justement que la vocation ou le côté bon professeur, c'est peut-être justement là que réside toute la différence. C'est que quand on a ces capacités-là dès le début et qu'on souhaite se diriger vers l'enseignement pour cette raison-là, il y a de fortes probabilités pour qu'on les mette en place. Alors que quand on les a pas vraiment avant de se diriger vers cette vocation-là, enfin, en tout cas, pour ma part, c'était là bien avant. Et je suis triste des fois qu'on résume toute ma personne à cette étiquette de professeur due à mon métier. Mais donc oui, la pédagogie, je pense que je l'avais bien avant, parce qu'en formation, clairement, c'est très pauvre. Et le principal développement de cette pédagogie, je trouve, se fait sur le tas, en tout cas pour ceux pour qui ça n'aurait pas été fait avant, ou pas suffisamment. Donc voilà, je trouve ça important, et d'ailleurs ces capacités-là, je les retrouve chez bon nombre de parents en instruction en famille. C'est, on dit souvent, la curiosité, le fait d'être passionné, le fait de vouloir œuvrer pour le développement de l'enfant, son épanouissement, la patience, l'empathie, le fait de l'humilité aussi, parce que comme on disait, être au service des autres, c'est pas toujours simple de complètement pas s'oublier, parce que je parle pas de sacrifice, je parle plus d'humilité, de savoir se mettre un petit peu en deçà pour se charger de quelqu'un, enfin pour se dévouer à cette mission-là, en fait. Et surtout, le sens du devoir. Enfin, c'est vrai que, voilà, oui, il y a un sens du devoir très fort, mais pas de sacrifice. Plus de devoir. Et sinon, il y a aussi toute cette dimension du doute. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais quand tu te lances en instruction en famille, tu doutes énormément. Enfin, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais moi, j'ai beaucoup douté pendant au moins une année. Sur mon rôle déjà bon, dans la société à cause du fait d'être mère au foyer, ça c'est sûr, on doute, parce que j'ai toujours travaillé dans ma vie, dès l'âge de 18 ans. Donc pour moi, c'était indispensable d'être autonome, de ne pas être dépendante du salaire de mon mari. Donc ça a été compliqué, et à double titre, c'est-à-dire que quand on se lance dans ce genre de projet, si on s'y lance franchement, on a peur même de la mort en fait. On a peur que l'un des conjoints décède. Alors nous, si on décède, voilà comment ça va se passer pour les enfants. On y pense. Et inversement, si le mari... Donc, y a beaucoup de femmes qui s'interrogent sur leur droit à la retraite, sur l'éventuel décès, l'éventuelle séparation. Donc c'est un choix vraiment de vie encore plus lourd peut-être que ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure. Et du coup, les doutes naissent à plusieurs niveaux, mais pas seulement sur l'instruction. Moi, j'ai eu beaucoup de doutes à l'époque sur l'ouverture au monde de mes enfants, parce que c'était l'une des principales critiques que les gens nous opposaient ou finissaient par nous opposer sur est-ce que les enfants seront sociables, voilà, pour résumer.
Et alors, la sociabilisation et tout ça?
En fait, elle est plus qu'effective, parce qu'on se rend vite compte que nos enfants ne sont jamais sortis, en fait, de la société. Tout comme nous, on y vit tous les jours sans aller aujourd'hui à l'école. On est sociable, et si on prend tout ce qui existe autour de nous, il suffit de s'ouvrir, en fait. Là, moi, je vois sur ma commune, il y a beaucoup de choses d'organisées. Et bien, c'est le rôle que j'ai vu aussi chez tous ces parents autour de moi. C'est que chaque jour, je vais aller regarder l'agenda culturel de ma ville, s'il y en a un. Je vais aller regarder les sorties culturelles autour de chez nous. Dans mon département, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est même une redécouverte de notre patrimoine local. C'est une redécouverte du territoire que je n'avais pas faite. Étant enfant, étant adulte non plus, là tout d'un coup j'ai découvert qu'il y avait des petits musées tout autour de moi, et aussi beaucoup de personnes ressources auxquelles je n'aurais pas eu accès. Cette solidarité aussi entre familles qui fait qu'on organise chacun notre mode de vie propre et selon notre choix familial, mais on n'hésite pas du tout à mutualiser, à organiser des activités en commun, ne serait-ce que pour avoir les tarifs de groupe. Enfin, mais voilà, il y a beaucoup de solidarité. De choses qu'on plébiscite dans la société actuelle, moi je les ai retrouvées pleinement dans la société de l'instruction en famille. En tout cas, ça, c'est pas une société, c'est dans ce groupe de parents choisissant d'instruire en famille. Tout ce qui est troc, tout ce qui est solidarité en termes de dons, d'échanges, voilà, c'est incroyable en fait, tout ce qui a été créé, et à la base par peut-être une seule famille qui s'est dit, tiens, je vais mettre ça en place, et si ça intéresse les gens, je continue et je le laisse évoluer avec les personnes intéressées. Donc, il n'y a aucune obligation, Non, c'est vraiment ce qu'on voit naître, d'ailleurs, dans les initiatives nationales ou internationales. Mais là, je le vis pleinement. Je n'ai pas eu de mal à me rendre compte que c'était la volonté des gens que d'aller vers les autres. Et donc, nos enfants sont insérés dans ce système-là d'échange, de partage, de mutualisation. Ont à cœur, d'ailleurs, d'ouvrir toutes leurs activités aux enfants de toute forme d'instruction, c'est-à-dire peu importe école ou non-école. Donc, on met en place des choses, des fois, sur les dimanches pour que tous les enfants puissent venir, que ce soit pas... En fait, on s'en moque un peu de s'ils suivent les cours à la maison ou à l'école, à partir du moment où ils peuvent interagir entre eux et que...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et que le, comment dire, on parle de culture commune à l'école. Alors j'irai plus loin que la culture commune, mais je pense qu'on est nombreux à vouloir que nos enfants aient un langage qui puisse leur permettre d'évoluer dans la société sans se poser de questions. Et d'ailleurs, pour parler des programmes de l'éducation nationale, on pense souvent qu'il faut les avoir intégrés pour pouvoir que nos enfants puissent interagir avec les autres enfants. Je dirais que c'est pas tout à fait faux. Moi, je me suis rendu compte de ça de façon, encore une fois, fortuite, mais mon fils avait... la petite voisine qui lui dit « Bon, là, je vais devoir rentrer, je vais faire mes devoirs pour... J'ai du futur à faire. » Elle était en CE1, elle avait 7 ans, je crois. Et mon fils me regarde, il me fait « C'est quoi le futur ?» Et du coup, on a découvert la conjugaison grâce à la petite voisine. Et j'ai jamais eu le sentiment de faire de l'éducation nationale ou de forcer mon fils à apprendre quoi que ce soit. Et il me l'a demandé. Et je me suis dit « Oui, pour avoir un langage commun, pouvoir discuter avec sa copine, peut-être qu'il a besoin de savoir le jargon sur ce point, conjugaison en particulier, mais alors qu'il conjuguait très bien dans ses textes, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, c'est des petits éléments comme ça qui font que, d'accord, on va apporter le jargon présent à l'école, mais c'est pour moi pas une obligation. Je ne sais pas comment dire, mais pour la société, justement, pour pouvoir...
Non, mais c'est que moi, ce que j'entends, si tu veux, c'est que de toute façon... Les rencontres et la sociabilisation qui sont mises en place, et je trouve ça super chouette, les rencontres avec les enfants scolarisés. C'est aussi le cas par chez moi, et c'est vraiment chouette de voir qu'il y ait cette ouverture de rencontres. Et justement, c'est là où on se rend vite compte que là où on peut se poser, nous, plein de questions et de doutes, bah, les enfants, entre eux, ils n'en ont pas, quoi. Tu vois, ils n'en ont pas, et ils trouvent des systèmes et des solutions pour communiquer, quoi.
Moi, je vois à l'athlétisme, mon fils me disait là, l'année dernière, on lui a demandé « Mais tu vas dans quelle école ?» Donc là, il a répondu « Je fais l'instruction en famille. » On lui a dit « Ah bon, c'est quoi ? Enfin, t'as le droit de rester chez toi ?» Enfin, voilà, des questions de curiosité. Mais comme il m'a rapporté très vite, en fait, une fois qu'ils avaient satisfait leur curiosité, bah voilà, tu cours, t'as deux bras, t'as deux jambes, tu nous parles, t'es pareil, t'as un prénom, bon bah voilà, on joue ensemble. Et ils se posent pas plus de questions que ça. C'est on partage nos jeux. Nous, ce que ça nous a apporté l'instruction en famille, c'est que nos enfants peuvent aussi voir facilement des enfants qui n'auraient jamais été à l'école avec eux. Donc finalement, c'est ce qu'on observe d'ailleurs dans les activités extrascolaires sportives ou artistiques, c'est que les enfants sont mélangés de plusieurs communes. Et c'est là qu'on se rend compte de ce que tu dis, c'est que les enfants entre eux n'ont pas vraiment d'identité propre à leur école ou à leur mode d'instruction. Ils ont une identité d'enfant, j'ai un prénom... des fois, ils citent leur commune, enfin, genre j'habite là, mais je crois que c'est plutôt. Non, c'est plutôt quelles sont tes passions. J'ai envie de dire, c'est ce qui ressort le plus souvent. T'aimes courir, moi aussi. T'aimes le sport, ou à la limite, t'aimes quel. Comment ça s'appelle ça se voit que c'est pas mon domaine. Quelle équipe de foot. Là, on va avoir des garçons comme ça, parfois, des enfants comme ça. Mais. Et pour parfois ça va être plutôt tu connais telle ou telle série à la télé, tu connais mais les enfants n'ont pas besoin de grand chose pour se sentir soudés en groupe.
Oui, mais c'est ça.
Il faut juste parler le même langage en fait. Enfin, mais c'est ça. C'est le langage, hein, c'est une affaire de langage.
Et ils trouvent des chemins quoi. Et au niveau pour le coup, il y a quand même une question qui m'interpelle et comme tu as l'expérience sur le sujet, au niveau des contrôles. Que ce soit de l'éducation nationale ou que ce soit les contrôles de mairie, comment ça se passe ?
Souvent, je fais le parallèle avec le contrôle que j'ai eu au sein de l'éducation nationale. Et je dirais qu'il n'est pas tellement différent, mais pourtant très différent. Alors, c'est une réponse un peu politique, là, je ne sais pas trop comment dire. Je vais quand même faire le parallèle. Quand tu es institutrice, quand tu es professeur, on t'inspecte, toi, dans ta classe, sur une situation d'enseignement. Donc, on vient dans ta classe à un moment donné, on t'a dit à quelle heure le rendez-vous est organisé. On t'observe sur ta pratique de classe pendant une heure, en gros. Et pendant ce temps-là aussi, on a accès à tes ressources, à tes documents qu'on observe et qu'on analyse pendant que tu fais ta pratique de classe. On demande aussi en général à avoir 2 ou 3 cahiers d'enfants pour voir, et on demande même un peu un cahier, en gros, un bon cahier. Enfin, c'est dur, hein, ce que je dis. Hein. Enfin, moi, ça me paraît dur. Bon cahier, cahier moyen et cahier plus compliqué pour rendre compte un petit peu de la classe dans sa totalité. Ça, c'est ce qui était fait avant. Donc, c'est vrai que je parle peut-être même d'une pratique des contrôles de l'éducation nationale qui n'a plus lieu aujourd'hui. Alors, bon. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais à l'époque. Et donc, quand j'ai eu mon contrôle en tant que maman, dans le cadre de l'instruction en famille, je me suis attendue à ce traitement, à cette observation des supports, à cet échange sur la pédagogie, sur comment je mettais ça en place avec mes enfants. Et en fait, rien du tout. Donc, ça a été la grosse déception dès le premier contrôle. Et je sais que ça ne reflète pas tous les inspecteurs de France. Mais en tout cas, sur notre département, c'est quand même courant. Ce n'est pas un cas isolé. Et donc, ça s'est réduit à un entretien. J'ai été séparée de mon enfant. Donc déjà, quand on est l'instructrice, moi, on ne me séparait pas de mes élèves. Donc là, on m'a séparée de mon enfant, qui a été, lui, soumis, qui aurait dû être soumis à des tests, pendant que moi, j'étais avec l'inspectrice qui était, à cette époque-là, ma supérieure hiérarchique. On peut voir aussi des soucis. Hein,
ah oui.
Donc du coup, j'ai eu plutôt un entretien de carrière, pour être franche. On m'a demandé quand est-ce que je reprendrais le travail. J'ai eu des questions qui n'étaient pas dans le cadre de l'instruction en famille, donc de par peut-être mon métier, ce problème-là. Et après, j'ai eu un discours institutionnel. Donc le premier contrôle, ça a été vraiment un discours institutionnel, comme quoi l'école était le seul endroit valable pour délivrer une instruction aux enfants. Et heureusement que j'étais professeure des écoles en soi, parce que j'ai pu opposer mes arguments et lui expliquer ma façon de voir. Et comme quoi, il me semblait, donc à la fin, je lui ai dit que... Mais c'est vrai que c'est problématique quand on est professeur des écoles de se défendre en étant neutre. Donc, on le fait. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Mais c'est vrai que c'était assez exaspérant. Donc, le premier contrôle a été très douloureux parce que ça s'est terminé. Même l'inspectrice avait été voir mon fils en lui demandant « Tu vas aller à l'école bientôt ?» Et mon fils avait répondu non. Et elle lui avait dit « Mais tu es trop petit pour savoir. » Voilà. Donc, le premier contrôle, honnêtement, on en est ressorti très, très mal. Enfin, moi, j'étais déçue de ne pas avoir pu échanger sur... Mon fils, à l'époque, avait 7 ans, parce que le contrôle était obligatoire qu'à partir du CP. Et ils sont venus... Il est début d'année, donc il avait déjà 7 ans. Donc, ça faisait 7 ans que j'élevais mon enfant. Ça faisait plus de 5 ans que j'avais choisi l'instruction en famille. J'attendais énormément de ce contrôle. J'attendais énormément d'accompagnement. Je voulais... échanger sur cette pratique qui n'était pas une pratique de classe, mais bon, pour moi, une pratique de pédagogue, en tout cas de pédagogie, et j'ai pas pu échanger à ce sujet-là. Et ça, c'était une énorme frustration. Et c'est là que ça m'a fait mal, quoi. Vraiment, je me suis dit, même dans ce cadre-là, les inspecteurs, en tout cas cette inspectrice-là, n'a pas réussi à prendre la mesure peut-être de l'investissement des parents et de vouloir échanger avec eux. Je m'attendais vraiment à un discours de pédagogue à pédagogue. Enfin, pour une fois, une mutualisation, ce que j'avais déjà eu du mal à trouver dans mon métier. Et là, pas du tout. Donc, j'étais déçue. Les rapports ont toujours été très bons. Les années suivantes, il y a eu plus de dialogues, mais jamais vraiment sur comment je mettais en place, sur quel moyen on utilisait. Du coup, j'ai l'impression parfois d'avoir été bien jugée, ça c'est sûr, mais uniquement sur les résultats des enfants. Sur comment ils présentent, comment ils s'expriment, sur ce qu'ils pouvaient observer. Et c'est vrai que c'est très bien. Mes enfants sont des enfants bavards, comme leurs parents, très à l'aise en société, donc ça, c'est très bien. Mais encore une fois, le travail que nous, parce que je parle souvent depuis le début de dire que mes enfants ne savent pas ce que c'est que le travail, mais moi, par contre, je fournis quelque chose. Parce que j'ai dit depuis tout à l'heure que je suivais les enfants, etc., mais en fait, c'est parce que je les décharge complètement de cette dimension de programmation que moi j'ai, que je connais très bien et sur laquelle je me suis repenchée constamment pour me tenir au fait de ce que l'éducation nationale attendait des enfants. Donc même si mes enfants n'en ont pas conscience, moi je le sais.
Tu veilles au grain au niveau du cadre par rapport au cycle d'études. Et...
Et puis à cause des contrôles aussi, c'est vrai que les contrôles font qu'on a une certaine... Alors, je sais que tous les parents ne font pas comme ça. Moi, c'était une façon de me rassurer que de me dire, bon, où est-ce qu'on en est, en gros. Et si je compare, et encore une fois, dans cette dimension, moi, c'est plus sociétal. C'est-à-dire, est-ce que si mon enfant, bon, ils ont beaucoup d'enfants scolarisés autour d'eux, bah, veiller à ce que le dialogue entre eux soit faisable, en fait, et aisé. Et que si on leur parle de telle ou telle connaissance, ou telle, bah, que mes enfants soient peut-être conscients que ça existe, déjà, et qu'ils l'aient peut-être croisé, d'ailleurs, peu importe comment. Parce que moi, c'est plutôt ça, c'est plus le comment. Je trouve que j'ai une grande liberté aujourd'hui sur les moyens. Et la façon d'aborder telle ou telle chose. Donc, si c'est fait et que mes enfants, c'était une passion du moment, eh bien, très bien. Je vais pas trouver ça dommage qu'ils aient appris les mêmes choses que les enfants à l'école. Enfin, voilà. Donc, les contrôles, pour nous, problématiques. Et cette année, ça a été un gros changement aussi, puisqu'on a changé d'équipe. Et que les personnes, donc, pour le coup, c'est même pas qu'il y a eu très peu d'entretiens sur nos moyens d'enseigner, enfin, sur nos moyens de faire avec nos enfants, c'est qu'il n'y en a pas eu du tout. Donc ça a été bonjour, on se met avec les enfants, test et au revoir. Et d'accord. Là, je crois que c'est la première fois qu'on a vécu un contrôle de cette façon. Donc j'ai été en entretien avec l'inspecteur, mais c'était un entretien, encore une fois, qui ne parlait pas du tout de comment je vivais les apprentissages avec mes enfants. Comment les enfants les menaient, comment ça se passait.
D'accord. Ok. Donc ça, c'est pour les entretiens de l'éducation, pour les contrôles de l'éducation nationale. L'éducation
nationale, oui, pardon. Non, parce que la mairie, nous, alors, c'est particulier aussi, c'est, on est dans une grosse commune, non, mais 14 000 habitants. Bon, une commune quand même pas si petite. Lorsqu'on a fait notre première déclaration à la mairie, en fait, je les ai appelés parce que je n'avais pas eu de nouvelles. Et en fait, on est tombé sur une personne qui, vu qu'elle ne cautionnait pas du tout l'IUF, ne voyait pas pourquoi elle ferait un contrôle.
Attends. Et,
voilà.
Si je comprends bien ce que tu dis, tu tombes sur une personne qui ne cautionne pas l'IEF, donc tu tombes sur un agent de la fonction publique qui fait jouer ses opinions personnelles dans son rapport à une citoyenne, et en plus qui te dit que pour le coup, comme elle cautionne pas, elle va pas contrôler. C'est un petit peu... Enfin, oui, moi personnellement, je serais contre l'IEF, je me dirais, je vais contrôler sévèrement, tu vois.
Ah non, elle, c'était plutôt « je n'ai pas à m'en soucier, c'est pas mon rôle ». Pour elle, c'était quelque chose qui sortait du cadre de ses responsabilités. Et du coup, je lui ai expliqué brièvement dans la loi comment c'était écrit. Et là, elle m'a dit « non, mais j'ai reçu votre déclaration, tout va bien, c'est bon pour nous ». Donc, j'en suis restée là. L'année d'après, j'ai re-rappelé, parce que je me suis dit quand même « je veux être une bonne citoyenne, je veux que notre famille, on ait les contrôles comme tout le monde ». Enfin bon. Et encore une fois, on m'a donné une réponse comme quoi la lettre était parvenue et qu'il n'y avait aucun souci.
D'accord.
Et la troisième année, j'ai arrêté d'appeler. Je me suis dit que c'était apparemment un fait établi. Et donc là, c'est une personne chargée de l'enfance, donc adjointe au maire, qui était venue à notre rencontre et qui m'avait dit, elle nous connaissait très bien. Et elle m'avait demandé justement comment il fallait procéder à cette enquête de la mairie, à ce contrôle de la mairie. Et donc, je lui ai fourni les documents officiels, etc. Et on n'a jamais eu de nouvelles non plus. Donc, c'est vrai qu'on s'est demandé longtemps pourquoi. L'année suivante, elle nous a dit qu'elle avait été rappelée à l'ordre par l'inspection académique. Et du coup, je lui avais dit à cette occasion-là encore, mais faites le contrôle. Nous, parce qu'on se sentait mal même de ne pas être contrôlé, on avait même peur d'un retour de bâton l'inspection académique. Parce que nous, on faisait aucunement obstruction au contrôle, enfin, il n'y avait aucun souci. Et l'année dernière, on était un peu dans cette disposition-là de « mais quand est-ce qu'ils vont enfin venir nous voir pour que, enfin, sur un papier, ce soit écrit qu'il n'y a pas de souci ?» Donc, ça fait 6 ans qu'on n'a jamais eu de contrôle de la mairie et qu'on se dit, au fond, que c'est peut-être... Enfin, voilà, on ne sait pas, en fait, il n'y a rien qui atteste que le contrôle de la mairie ait été fait officiellement. Nos enfants, c'est vrai, sont très, très actifs sur la commune et dans les structures municipales. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent, j'ai déjà eu le cas pour d'autres parents, on se dit, c'est peut-être que pour eux, c'est bon. Mais en fait, c'est bon, on ne l'a pas écrit noir sur blanc. On n'a pas de papier attestant que le contrôle officiel ait été fait. Donc, c'est toujours un peu dérangeant quand même. Puis pareil, ça fait 6 ans qu'on est inspecté, 13 rapports par l'inspection académique qui habite sur la commune. On est sur sa commune. Je veux dire, l'inspection académique est sur notre commune. Donc, on s'est dit peut-être que c'était pour cette raison-là que... Voilà, mais c'est problématique pour nous parents de voir que la loi n'est pas respectée.
Bah, c'est ça. Moi, je trouve ça très problématique, surtout dans notre contexte actuel.
Voilà.
Où on nous dit que où on peut entendre des députés, une députée de près de chez moi qui raconte que les parents refusent les contrôles. Non, bah non.
Non, moi j'ai eu tellement de contact avec eux que je sais que voilà, là pour nous, mais justement, on en vient à craindre que ce soit leur seul argument face à nous, parce que parole contre parole, et pourtant, voilà, c'est vraiment pénible. Nous, l'année dernière, on était vraiment peinés qu'elles nous disent encore « j'ai pas trouvé le temps, oui, je sais que j'ai cette enquête à faire, mais je ne sais pas comment la faire. » Au bout d'un moment, nous, on est des citoyens, on a des droits, eux, ils ont des devoirs envers nous aussi. Faut qu'ils... C'est pas à nous de faire à leur place.
Je relève ce que tu dis parce qu'on est citoyen, on a des droits, on paye nos impôts, dans lesquels il y a le fonctionnement de l'école que nous n'utilisons pas. Alors, juste pour rappel, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, le coût moyen d'un enfant pour l'éducation nationale, c'est 9000 euros par an. Donc, nous, on ne coûte rien. Enfin, les gens en IF ne coûtent rien à l'éducation nationale. Et en plus, on doit réclamer leur droit à être contrôlés. C'est quand même assez fou.
Oui, mais bon. On contribue au service public, comme tu dis, et c'est vrai que récemment, il a été fait question du fait qu'on ne paye pas nos contrôles de l'éducation nationale.
Et encore je
pense que nos impôts, vu que c'est le seul service qu'ils nous rendent, enfin qu'ils devraient nous rendre, c'est de venir nous contrôler, de vérifier que tout va bien et de nous accompagner même. D'ailleurs, on pourrait souhaiter un accompagnement de leur part, étant donné qu'on finance le système public. Et que c'est la seule fois où on les voit, où on a un contact avec eux. Moi, c'est vrai que c'est pour ça aussi peut-être que je m'attendais à un accompagnement différent lors des contrôles de l'éducation nationale, parce que je me disais que j'avais déchargé le système en m'en chargeant moi-même, et qu'en échange, donc, j'avais ce contrôle annuel. Je pensais que ce serait un accompagnement qui remplacerait en fait le poids que mes enfants auraient pu représenter pour l'école publique.
Alors, juste pour que les choses soient claires, nous ne faisons pas non plus une généralité sur le fait que les contrôles ne sont jamais faits, sur le fait que les contrôles se passent toujours comme ça. Les contrôles, comme tu l'as très justement dit au début, dépendent énormément de l'inspecteur ou de l'inspectrice qu'on peut avoir. J'ai le cas près de chez moi d'une famille en F qui a eu son premier contrôle tout début 2021, pardon. Et vraiment, c'était ce qu'elle attendait. C'est-à-dire que la personne a pris le temps de regarder les supports pédagogiques, de discuter pédagogie, de discuter des facilités, des difficultés, puisqu'on a des enfants de différents âges. Et pour le coup, elle a même donné des conseils et des astuces qui ont été pris et mis en pratique tout de suite. Et donc, ça peut aussi se passer comme ça.
Alors oui, ça peut. Bah, c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait mis en place un questionnaire pour rendre compte des vécus du contrôle pédagogique de l'IEF en France. Et c'est vrai que nous, en tout cas sur le département, c'est l'hécatombe. Alors, je ne sais pas si c'est notre département, mais sur notre circonscription, là, cette année, par exemple, les contrôles se sont révélés être que des tests passés par les enfants. Avec une notation. Donc, j'ai des enfants qui sont revenus avec des 6 sur 20, des 8 sur 20, à l'âge de 8. Alors que si on a souhaité parfois sortir son enfant du système scolaire, c'est justement pour lui éviter, pour certains, hein, ce jugement, cette évaluation, qui est d'ailleurs aujourd'hui remise en question hein, depuis de nombreuses années. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et quand on voit que les contrôles se déroulent quand même majoritairement comme ça sur tout un département, on s'interroge. Voilà. Et donc oui, il y a des conditions où il y a des inspecteurs. Alors nous, on les juge exceptionnels. On aimerait qu'ils soient plus nombreux. Et c'est vrai qu'on reconnaît leur neutralité, on reconnaît leur bienveillance, leur ouverture d'esprit et surtout leur réelle vocation et leur envie de transmettre cette vocation. Parce que pour moi, des parents qui choisissent l'IEF sont avant tout un rayonnement de l'école en fait. J'ai l'impression qu'on rayonne en dehors les murs pour éduquer les enfants de France. Et finalement, même si ce sont nos propres enfants, comme on disait tout à l'heure, ça reste du temps dévolu à quelqu'un et on le fait et on s'en charge. Et du coup, pour moi, les inspecteurs qui ont cette bienveillance-là, cette ouverture d'esprit, bah, je les remercie chaleureusement. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus si la loi ne passe pas et que nous parviendrons enfin à marcher tous ensemble en fait, dans la même direction, c'est-à-dire celle de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ce fameux droit à l'instruction qui, à la base, est le seul... que l'on doit et qui a un rapport direct avec l'instruction en famille. Parce que dans l'instruction en famille, ce n'est pas vraiment la vie de la famille qui devrait être jugée, mais bel et bien ce droit à l'instruction, est-ce qu'il est respecté ou non. Tel qu'à l'école, on respecte que l'enfant ait une assiduité scolaire pour qu'il ait ce droit à l'instruction de respecter. Et du coup, moi, ça m'importe beaucoup parce qu'on ne regarde pas ce que font les enfants de l'école en dehors de l'école, si ce n'est pas le but. On ne vérifie pas leur logement, On vérifie pas si les parents, leur offrent des activités extrascolaires. Là, d'ailleurs, lors du sondage récent, j'ai pu observer que les familles disent avoir en général une activité extrascolaire par an. Bon, moi, mon fils en avait 12 heures l'année dernière par semaine. Donc, c'était pas une seule activité, c'était 5, 6. Et parce qu'on a une commune qui nous fait bénéficier d'activités scolaires, extrascolaires plutôt abordables, parce que sinon, je suis bien consciente du coût que ça pourrait représenter. Et aussi, j'ai été surprise, mais je le savais, hein, j'ai demandé aussi à savoir combien de sorties scolaires étaient organisées par an. Alors, il faut savoir qu'avant les attentats de 2015, on avait à peu près tous au moins une activité extrascolaire organisée dans les écoles. Enfin, moi, c'est ce que je... Une sortie scolaire annuelle, on va dire. C'était la grosse sortie de l'année, en plus de la kermesse ou d'autres petites manifestations. Mais on va dire qu'on avait une grosse sortie organisée parce que, en tant que directrice, je peux en parler, j'étais directrice pendant 4 ans. C'est vrai que le coût d'un bus est considérable. Donc, c'est vrai que c'est pas une critique faite à l'école, ce nombre restreint de sorties scolaires, hein, je tiens à le souligner. C'est plutôt faire le parallèle. Et que quand on est parent, ça coûte beaucoup moins cher. Et je me rends compte que les activités qu'on organise sont bien plus nombreuses. Et c'est vrai que voilà, pourquoi faire peser toutes ces obligations en instruction en famille, qui sont finalement pas imposées à l'école, parce que le système ne pourrait pas mettre tout ça en place. Enfin bon, ça m'interroge vraiment en tant que professionnelle, parce que du coup, je peux regarder les deux tableaux. C'est à l'école, qu'est-ce que j'avais comme moyen, qu'est-ce que j'avais comme possibilité, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme moyen, qu'est-ce que j'ai comme possibilité. C'est édifiant. C'est compliqué pour moi de... Pas de défendre l'école, mais plutôt de dire aujourd'hui que l'école serait meilleure pour mes enfants. Alors là, c'est mission impossible.
Non. Disons que moi, si tu veux, sur le sujet de l'école, je crois profondément au principe de l'école publique.
Voilà, c'est pareil.
Clairement. Non, mais clairement, j'y crois profondément. C'est juste que ce qu'elle est aujourd'hui m'interpelle. Et j'entends qu'il y a des gens qui ont le privilège d'avoir des écoles qui ont des moyens, qui sont bien équipées, avec du personnel qui est motivé, qui est vraiment dans une vocation. J'entends. Ben, moi, en tout cas, par exemple, chez moi, dans les 3 écoles les plus proches, ben, il n'y a pas. Et bien au contraire, il y a de la vraie violence. C'est ce qui est compliqué, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est de parler d'oublier les individualités, les cas par cas. On le fait pas pour les profs, on le fait pas non plus beaucoup pour les écoles, de ce que me disent mes amis enseignants ou dans les fonctions de direction des écoles. Donc c'est compliqué.
En fait, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la reconnaissance qui serait due et il serait plus que temps pour les professeurs et pour les établissements scolaires qui fonctionnent bien. Et moi, c'est justement pour ça que je me battais encore récemment. Je trouve que c'est cette reconnaissance, quand on nous en parle, c'est très hypocrite. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'enfin, les enseignants qui travaillent activement, qui font de belles choses, soient mis en avant. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On les fait taire. D'ailleurs, quand ils veulent innover un petit peu ou créer des nouvelles pédagogies plus respectueuses de l'enfant, elles sont très rapidement mises de côté parce qu'on leur demande de reprendre... le traditionnel qui permet à tout le monde de se retrouver plus facilement dans les repères et c'est plus confortable. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que voilà, on n'est pas mis en avant, les établissements qui fonctionnent bien ne sont pas reconnus. Alors on va plébisciter les établissements avec des résultats scolaires exceptionnels.
Oui, mais c'est ça. Après, bon, on est sur des considérations philosophiques et de société qui sont différentes. Pour finir, cet épisode, je voudrais te demander, Adeline, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux familles, peu importe leur situation, mais aux familles qui se posent la question de l'instruction en famille?
Je dirais que si elles se posent la question, c'est qu'il y a forcément des raisons, parce qu'on ne se pose pas la question de l'instruction en famille sans raison, que leurs raisons, pour moi, si elles sont fondées par le bien-être de leur enfant, enfin sur le bien-être de leur enfant, et qu'elles ont pu observer que l'école n'y répondait pas ou qu'ils n'en sont pas satisfaits ou même qu'ils envisagent quelque chose de différent, moi je trouve que c'est leur droit. Qu'en tant que parent, on doit rester... c'est plus facile d'assumer un choix qu'on a fait que d'assumer une décision forcée. C'est beaucoup plus simple d'accompagner son enfant, je pense, en instruction en famille ou à l'école quand c'est un choix que quand ça ne l'est pas. Et on a beaucoup de souffrance d'ailleurs des parents en général qui mettent à l'école parce que c'est voilà, c'est courant et c'est ce qu'on pense en premier lieu, mais qui au final se retrouvent confrontés à des difficultés aussi lors des devoirs. J'entends beaucoup les parents qui souffrent lors des devoirs le soir, ou même dans cette coéducation que représente l'école, parce que pour moi ça reste une coéducation. Et donc, si on se pose la question, je crois qu'il faut vérifier, sans donner les moyens, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de la volonté. Et que si vous voyez qu'il y a une brèche qui s'ouvre pour vous et que c'est possible avec votre conjoint ou votre conjointe, et que l'enfant surtout, parce qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs de l'enfant, qu'est-ce qu'il en pense lui ? Et je vois beaucoup de parents d'ailleurs qui sont démunis face à cette parole de l'enfant parce que à l'âge de 3-4 ans, qu'est-ce qu'a besoin un enfant à cet âge ? Bah franchement, je pense que c'est d'être heureux. Et qu'est-ce que c'est son bonheur ? Bah, c'est de continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Je pense que quand même, il y a peu d'enfants, sauf s'il était malheureux, qui n'ont pas envie de continuer assez naturellement à vivre auprès de leurs parents. C'est aussi beaucoup la raison des pleurs de beaucoup d'enfants à l'entrée en maternelle. C'est que ça crée une rupture. Donc, on n'a pas forcément envie de la créer quand on est enfant. On ne la comprend pas toujours. Et donc, si on choisit l'école, bah, c'est vrai que c'est bien d'accompagner. Je pense que c'est notre choix de parents, d'être dans l'accompagnement. Et souvent, donc pour les parents qui se lancent en IEF et qui hésitent, je trouve ça difficile parfois. Ce que j'entends beaucoup, c'est cette idée des jeunes enfants qui vont des fois réclamer l'école parce que pour eux, ce sera le seul lieu pour voir des copains. Et je dirais à ces familles-là qu'en ce moment, on vit une période très difficile. Donc forcément, l'école aujourd'hui est le seul lieu ouvert où les enfants peuvent se regrouper. Mais en règle générale, quand on fait l'instruction en famille, tous les lieux de la société sont des lieux ouverts où les enfants peuvent se regrouper. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les parents qui ont envie de se lancer dans ce projet, qu'ils aient confiance en eux, courage et patience, parce qu'on traverse une période difficile. Voilà. Enfin, moi, je pense surtout aux parents de jeunes enfants, en fait. Parce que les parents d'enfants plus âgés, nous, les nôtres, aujourd'hui, il n'y en a aucun qui réclame l'école. J'aurais pas eu de problème à leur vendre, pas à leur vendre, parce qu'on ne vend rien, mais à leur proposer l'instruction en famille si ça n'avait pas été le choix de départ. J'ai beaucoup de ces copains qui vont à l'école, qui vont à l'école aujourd'hui, qui les envient beaucoup. La première phrase qui revient, c'est t'as de la chance. T'as pas, t'as de la chance.
Et pour le coup, une dernière question. Si demain imaginons ton grand, il dit maman, moi je veux aller à l'école.
Alors nous, c'est ce qu'on a entendu dans beaucoup de vidéos. C'est important de le dire. C'est vu que c'est un choix familial. J'ai beaucoup parlé des parents, mais en fait c'est un choix familial. Je sais pas combien de pourcents, mais quasiment la totalité des parents demandent régulièrement, voire même plus qu'une fois par an, à ses enfants. Ou en tout cas, on est à l'écoute, on n'a pas vraiment besoin de le demander. Si un enfant a envie de nous dire « je veux aller à l'école », normalement, il le dira. Hein, il sait que ça existe, il sait que c'est possible. Et ça, c'est très important. Et donc, mon grand, par exemple, pour lui, il sait ce qu'il va faire dans les années à venir. Il me l'a déjà dit. Et donc, j'ai envie de le suivre dans son désir. Ses petits frères et sœurs, on dit aussi tout le temps ce qu'ils veulent. Quand tu demandes si nos enfants, s'ils veulent retourner, est-ce qu'ils auront le droit de le faire, est-ce qu'ils pourront le faire facilement, j'ai envie de te dire qu'en fait, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que l'instruction en famille n'est pas imposée. Oui. On nous a dit récemment, est-ce que vos enfants, on a l'impression qu'ils n'ont pas le choix, que vous leur avez imposé un modèle de vie. Et moi, je dirais, pourquoi est-ce qu'on considère que l'instruction en famille serait imposée et non l'école ? J'ai plus autour de moi de parents, et d'ailleurs on est 12,4 millions d'enfants scolarisés, hein, donc j'ai quand même une grosse majorité de parents autour de moi qui présentent l'école comme obligatoire à ses enfants, ou qui ne sait même pas d'ailleurs que ça l'est pas, et dont les enfants voient l'école comme une obligation.
Mmh. Ça, donc, oui, ça.
Je dirais que cet argument-là, il est quand même très dur à pas à démonter. Enfin voilà, très dur à entendre parce que je trouve ça triste, mais surtout que c'est complètement l'inverse. Moi, mes voisins, maintenant, leurs enfants ont su de force que nos enfants n'allaient pas à l'école. Ils ont dû faire avec. Je me dis, dans la coéducation aussi, c'est peut-être pas toujours simple pour certains parents. Mais au moins, leurs enfants savent qu'il y a un choix qui est réel et qui peut des fois ne pas leur être proposé. Ça, je peux tout à fait l'entendre par les parents, parce que parfois, on ne peut pas, on n'en a pas l'envie, c'est pas réalisable. Mais oui, en instruction en famille, il est quand même plus simple de dire à son enfant « demain, tu vas à l'école ». Que demain, tu fais l'instruction en famille. Mmh. Donc, pour moi, nos enfants ont toujours eu le choix. Et là, mon grand, lui, se voit passer le bac à distance. Mais c'est son souhait depuis toujours. Il aime ça comme ça parce qu'il a plus de temps pour voir ses copains, plus de temps pour vivre ses passions. Et même, il aime beaucoup ce temps passé aussi, même si ce n'est pas la majorité de son temps, mais avec ses frères et sœurs et avec ses parents. Ça lui plaît. Mais surtout, c'est demain, je vais chez Pauline. Demain, je vais voir papy, mamie. Tiens, je pars une semaine en vacances au bord de la mer. Demain, je fais rien. J'ai pas envie de travailler. Ou aujourd'hui, par contre, j'ai commencé à apprendre l'italien et pendant 15 jours, maman, tu me parles plus parce que je veux faire de l'italien. C'est comme ça. C'est arrivé pour notre départ en Italie. En 15 jours, il a appris l'italien. Quand il est arrivé là-bas, il parlait avec les gens. Il comprenait ce qu'il disait, alors que nous, non. C'est pareil, ça re-questionne sur la question des capacités des parents. Est-ce qu'il faut être professeur pour choisir l'instruction en famille?
Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Adeline, pour cet entretien. Alors, j'en profite aussi pour te remercier, toi et ton mari, pour tout l'engagement que vous mettez sur la défense des droits à l'instruction en famille. On a bien compris que le sujet, c'était surtout la préserver la liberté du choix. Peu importe ce qu'on en pense, le sujet, c'est la liberté du choix. Merci beaucoup, Adeline, pour cette discussion.
Merci, Cédric, à toi, pour ce temps de parole.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.